Alexandre Dubé est avec nous, justement, pour le confirmer. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour. Alors, bilan du jour, ah, sacrément. Dis-nous que tu as des nouvelles pas pires.
Ben oui, j'ai des bonnes nouvelles, Benoît. Parce que quand on regarde la tendance, regarde, on se réjouira pas trop vite.
Ouais.
Et pour la deuxième journée de suite, le chiffre que je te dis commence avec un 8.
8 000?
C'est pas 8 000. C'est ça que je pour te dire. On a pensé à la même affaire. Écoute, 808 nouveaux cas de COVID-19.
OK. Mais là, il n'y en a pas. On m'a dit tantôt, ils vont sortir 800, mais il y en a 300 qui sont pognés dans les feuilles de fax.
Ouais, on a vu ça, hein, dans les dernières semaines, une espèce de backlog, là. Bon, 808 nouveaux cas. On a testé un peu moins. On rapporte à peu près 19 549 tests. Est-ce que c'est en lien avec ça? Ben, on verra bien. Si on regarde les autres indicateurs, parce qu'on parle du nombre de cas, on parle du nombre de décès. Il y a 10 décès supplémentaires, dont 2 dans les 24 heures. Ça, c'est malheureux, bien sûr. Les hospitalisations, Benoît, on est en diminution. En diminution de 8. Pour un total de 543. Et aux soins intensifs, diminution là aussi.
Bon.
4 pour atteindre 93. Donc, sur les 4 indicateurs, il y en a quand même 3 qui nous démontrent une tendance quand même encourageante. Mm-hmm. Également, quand on va en sous-région, Capitale-Nationale, on est en bas de 100 cas. Chaudière-Appalaches, c'est moins que ce qu'on a connu dans les derniers jours également. Ça aussi, c'est encourageant. Parce que vendredi dernier, souviens-toi, la sortie de la ministre Guilbeault, qui est vice-première ministre, responsable également de la région également, le maire Labeaume, le maire Lerouillé. Écoutez, on n'avait pas vu les deux ensemble depuis 2017. Alors, ça nous démontre un peu le sérieux de la situation. Puis on a lancé un cri du cœur pour la région de Québec. Là, on voit des chiffres quand même qui sont encourageants. Mais quand on met tous ces cas, un à la suite de l'autre, ben ça commence à faire beaucoup quand même pour le Québec, si bien qu'hier, ben on a franchi ce fameux seuil significatif de 100 000 cas de COVID-19. Reculons juste un peu en arrière, là. Le 28 septembre, quand M. Legault a annoncé une série de mesures pour réduire la deuxième vague, il y en avait 74 000 dans la province. Alors, ça, tu sais, à l'espace de quelques semaines...
Ouais.
On a assisté quand même à une croissance exponentielle.
Mais là, dans deux jours, c'est dans deux jours là qu'on revoit les consignes pour le confinement. Là, on ne sait pas ce qui nous attend. C'est pas avec 800 cas par jour où ça va baisser.
Ouais, moi, j'ai hâte de voir. Aujourd'hui, là, point de presse hyper important. Il est à 17 heures. Moi, c'est un indicatif depuis le début, là, depuis le début de la deuxième vague. Souviens-toi, lorsque le gouvernement a annoncé quelque chose de peut-être plus sensible, plus important, souvent, c'était une annonce qui était faite à 17 heures. Là, on est convoqué à 17 heures. On risque d'avoir des précisions par rapport à ce fameux défi-là de 28 jours. Là. Est-ce qu'on a suffisamment aplati la courbe avec les chiffres que je viens de vous donner? Est-ce que cette tendance-là s'en va du bon bord selon les spécialistes de la santé publique? Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait à partir de mercredi? Est-ce qu'on arrête ça là, le 28 jours? Est-ce qu'on prolonge? Si on prolonge, on prolonge de combien? Est-ce qu'on prolonge de 14 jours? Est-ce qu'on va encore pour un autre 28? Pour le moral des gens, ça risque d'être difficile si on y va encore un autre coup de 28. Une chose est sûre, Benoît, quand tu regardes ça, là, la pression commence à se faire sentir. Je te donne quelques exemples. En fin de semaine, il y a eu ces manifestations-là, des gens qui s'opposent aux mesures sanitaires sur différents, qui sont partis des convois de différentes villes au Québec pour converger vers Lévis, en roulant pas très vite, là, sur la voie de droite, sur l'autoroute 20. T'as eu aussi la lettre ouverte des restaurateurs la semaine passée, qui demandent, là, un peu de prévisibilité, de ne pas jouer au yo-yo avec eux, parce que quand tu rouvres, tu fermes, tu rouvres, tu fermes, ben, ça vient avec des frais, là. Tu sais, quand tu fermes un restaurant, t'as le frigo qui est plein, c'est des aliments que tu as achetés.
Ouais.
Bien sûr qu'on souhaite que ces aliments-là aient été donnés aux bonnes œuvres pour pas que ça se perde, mais quand même. Alors, les restaurateurs mettent de la pression. Alors, les gens aussi, on comprend que oui, c'est difficile pour tout le monde. Tentons de retrouver notre belle solidarité dans cette deuxième vague-là. Maintenant, c'est un équilibre qui est fragile. Puis qu'est-ce qui va être annoncé? Est-ce qu'on aura un petit nanan? C'est l'Halloween, là, dans quelques jours. Mmh. Est-ce qu'on aura un petit nanan d'annoncer aujourd'hui, c'est-à-dire le retour des sports, par exemple, le retour des sports dans les écoles, en zone rouge, pour ce qui est du sport-études, donc à l'extérieur des bulles. Une chose est sûre, là, c'est que le point de presse de 17 heures aujourd'hui va être déterminant pour la suite des choses. Moi, je suis convaincu de ça.
Puis en même temps, tu regardes ce qui se passe en France. Moi, j'étais sidéré de lire ça. Là, 52 000 cas en 24 heures. Aux États-Unis, ça va pas mieux. Ils sont rendus à 215 000 morts. Les chiffres nous envoient pas dans le bon sens.
Parce que si on se base là, sur ce qui s'est passé dans la première vague, souvent on se disait ce qui se passe en Europe, ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un peu avant-coureur sur ce qu'on risque de vivre. Ouais. En fin de semaine, là, à Salut Bonjour au week-end, j'étais là, et j'ai passé la fin de semaine à dire nouveau record en France, nouveau record en Italie, nouveau record aux États-Unis. Même l'Allemagne, qui était citée par comme exemple dans la première vague, il goûte là, dans la deuxième vague et bat des records de cas également. Il faut être extrêmement prudent pour la suite des choses chez nous.
Mmh. Bon, et j'ai parlé, c'est pas tous les propriétaires de gym, non. Mais certains veulent défier le gouvernement jeudi.
Ils sont à peu près 200, là, 200 salles d'entraînement, des centres de yoga, de danse, de crossfit, d'arts martiaux. Ils ont annoncé leur couleur aujourd'hui. En clair, eux vont ouvrir le 29 octobre prochain. Peu importe ce que le gouvernement va décider, si le gouvernement prolonge le défi 28 jours, eux, that's it, c'est terminé, on rouvre. Ça fait réagir. Leurs arguments principaux sont les suivants, en disant que les centres d'activité physique sont des auxiliaires de la santé publique, que leurs établissements n'ont pas représenté des secteurs d'éclosion de la COVID au cours des derniers mois. Et ils poursuivent aussi en disant que ce deuxième confinement-là a été vraiment reçu comme une claque d'en face par leurs membres et que leur mission première, c'est d'améliorer la santé des Québécois et la santé des Québécoises. On s'engage, par contre, que si le gouvernement est en mesure de leur prouver avec des études qu'ils sont une source d'éclosion, ben eux, à ce moment-là, ils vont faire marche arrière et ils vont revenir sur leur position. Mais d'ici là, ils défient le gouvernement en disant « on va suivre les mesures sanitaires, tout sera respecté, mais quand même, ça fait réagir aujourd'hui. On commence la semaine en force. Ce sera assurément adressé aussi au point de presse là, de 17 heures par le gouvernement. »
Ouais, puis il y a des propriétaires de gym avec lesquels tu veux pas t'obstiner, hein?
Plus baraqués que toi, plus moi.
Ben, peut-être, oui. Bon, 820 dossiers d'insolvabilité d'entreprise.
Ouais, ça nous montre hein, les coups durs de la COVID-19 sur notre économie. C'est beaucoup, là. T'sais, 820 dossiers depuis mars. C'est la restauration, la construction aussi, les secteurs les plus touchés. C'est une firme spécialisée depuis la mi-mars là, qui nous dit, entre autres, que 153 entreprises du secteur de la restauration ont fait appel à un syndic, soit pour faire faillite, soit pour déposer un avis de proposition ou pour faire une proposition à leurs créanciers. Il y a des restaurants indépendants, mais il y a des grosses chaînes aussi, là. T'sais, il y a des établissements comme Houston, comme Bâton Rouge, comme Pacini. T'sais, moi, je vis cette réalité-là à l'hôtel, à tous les week-ends, quand je vais travailler. T'sais, j'essaie d'encourager, d'avoir une rotation puis d'en encourager le plus possible pour les mets pour emporter, mais on le sent que pour plusieurs, là, c'est difficile. Avec la fermeture de ces salles à manger-là dans les zones rouges, ben là, l'industrie plutôt a peur que la liste s'allonge parce que, t'sais, quand t'as un restaurant, c'est que tu peux rentabiliser un petit peu ton pied carré dans ta salle à manger, mais là, t'sais, il y en a qui ont des très, très grandes salles à manger, ils font pas une scène avec ça. Souvent, le take-out, c'est pas assez. Et quand on regarde ça, parallèlement à tout ça, l'autre défi pour les restaurateurs qui offrent des commandes pour emporter, puisque c'est pas tous les restaurants qui le font, mais là, ils ont de la difficulté à recruter aussi des employés. Ça, c'est une autre difficulté. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que des propriétaires de restaurants constatent qu'il y en a qui semblent préférer rester au chômage plutôt que de venir travailler en cuisine. Et là, ils montrent directement du doigt cette bonification de l'assurance-emploi pour expliquer la situation qu'on vit, parce qu'on sait, la PCU n'existe plus, mais ça a été transformé en autre chose. Tu sais, les agriculteurs ont vécu ça aussi cet été, où malheureusement, certains ont dénoncé qu'on a laissé pourrir au champ, ici, là, au Québec, là. Alors qu'on vit quand même dans l'abondance, on est choyé, là, on a laissé pourrir au champ de la nourriture, parce qu'on n'avait pas de main-d'œuvre pour aller récolter ça. Alors, les restaurateurs ont un double défi en ce moment. C'est vraiment pas évident de recruter du personnel.
Ouais, fait que tu fais 500$ par semaine, au lieu d'aller t'allonger pour ramasser des laitues dans un champ. Là, ben, ça, Justin Trudeau, là, comprend pas ça, là. Tu sais, au lieu de mettre ça en incitatif, peut-être d'ajouter un incitatif au salaire que tu vas gagner, mais au moins, tu rapportes tu sais, tu poses un geste pour la société. Là, c'est non, on donne l'argent, puis il reste chez vous.
Ouais. C'est sûr que dans ce contexte-là, c'est décrié parce que, tu sais, autant où il y a des gens, parfois, effectivement, qui vivent des difficultés, qui ont besoin même d'aide alimentaire. Et là, ben, malheureusement, dans certains de nos champs, on a laissé pourrir de la nourriture. Il y a une réflexion à avoir, là.
Ouais. Et Nathalie Normandeau, aujourd'hui, va être fixée.
Ouais, Elle va être fixée en ce qui a trait aux procédures judiciaires là, qui sont intentées contre elle depuis 2016. Là, ce qui va se passer, c'est que si le directeur des poursuites criminelles et pénales n'interjette pas en appel cette décision-là aujourd'hui, ben l'ex-vice-première ministre va être complètement libre de tout ça. C'est le juge André Perrault qui avait annoncé, souviens-toi, un arrêt des procédures le 25 septembre dernier. Mm-hmm. Et puis là, ben la date limite du délai de 30 jours pour faire une demande d'appel, c'est là, là. Donc, vendredi, en fin de journée, le DPCP avait pas annoncé ses couleurs. On reste aux aguets là-dessus. On sait que Mme Normandeau a été libérée des accusations de fraude envers le gouvernement, de corruption dans les affaires municipales, d'abus de confiance. Ça pesait contre elle à la suite, bon, de la requête basée sur l'arrêt Jordan. Tout ça a été stoppé et les cinq co-accusés de Mme Normandeau, oui, Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, Mario Martel, France Michaud et François Roussy avaient aussi été libérés de toutes les accusations. On sera fixé donc aujourd'hui à savoir si c'est définitif ou si on va en appel.
Toute une saga, hein? Puis là, après, ben, ouais. Mme Normandeau va poursuivre le gouvernement du Québec, comme Jean Charest, comme Richard Despatie et M. Bonhomme. Là, les poursuites vont débarquer, là, parce que l'UPAC a fait la job qu'elle a faite.
Elle a cette carte-là dans sa manche, effectivement.
Très bien. Alexandre Dubé, merci. On se reparle demain.
Salut Benoît, bonne journée à demain. Ciao.